Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la censure à l'égard de l'homosexualité. Le sujet du jour est inspiré d'un article de l'agence France Presse publié sur les pages de La Presse et intitulé « Italie, l'Église censure un film sur l'homosexualité ». Voici ce qu'on y apprend. Le film « Weekend » du Britannique Andrew Haig sort cette semaine en Italie dans 10 salles seulement. Pour les autorités italiennes, ce film est seulement interdit aux moins de 14 ans. Mais pour la commission d'évaluation de la Conférence des évêques italiens, la CEI, il est déconseillé, inutilisable et scabreux. Par conséquent, le film a été refusé par les 1100 cinémas appartenant à l'Église qui forment l'essentiel du réseau des salles indépendantes du pays en marge des grandes chaînes d'exploitation, selon son distributeur, Theodora Film. Ces salles sont louées par les paroisses à des gérants qui, selon Cesare Petrillo, président de Theodora, ne sont pas des religieux, mais doivent s'engager à suivre les directives des évêques. Normalement, un film comme ça aurait été diffusé par beaucoup de salles. Mais en fait, on n'a pas pu le sortir dans des régions entières et des villes comme Florence, Bergame ou Padoue. Et la seule raison, c'est que les personnages principaux sont gays, a dénoncé M. Petrillo à l'AFP. Je poursuis. La commission de la CEI évalue tous les films sortant en Italie, approuvant la majorité mais signalant certains comme problématiques en invitant les exploitants à accompagner leur diffusion d'un débat sur les questions qu'ils soulèvent. Cela a ainsi été le cas récemment pour The Danish Girl sur la pionnière transgenre Lily Helb ou Spotlight. Ça, c'est intéressant comme concept. Avoir des temps de discussion après un film sur les valeurs, sur le message et sur ce qu'on peut retenir comme leçon de vie au travers d'un film. Personnellement, j'aimerais que ce concept se développe au Québec. Il me semble que les débats sur des enjeux ne courent pas les rues. Au Québec, il ne faut pas dévier du discours de la clique du jet set. Si on sort des sentiers battus, mesdames et messieurs, on est très mal vu. Il me semble que de tels débats rééquilibreraient cette iniquité. Maintenant, à la lecture de cet article, il est pertinent de se poser la question suivante. Est-ce que la majorité des films sont censurés par la Conférence des évêques italiens? Eh bien, la réponse est non. Selon l'AFP, l'agence France Presse, il est très rare que la commission aille jusqu'à recommander que le film ne soit pas diffusé. Cette censure ouvre à nouveau le débat sur la pratique de l'homosexualité. Il faut dire qu'à notre époque, nous sommes loin de la discrimination exercée par les nazis envers les couples de même sexe entre 1933 et 1945. Effectivement, selon Wikipédia, durant la période du Troisième Reich entre 1933 et 1945, on estime que 100 000 hommes ont été fichés comme homosexuels. Parmi ceux-ci, environ 50 000 ont été officiellement condamnés comme tels. La plupart d'entre eux ont été internés en prison, mais une étude de 2009 évalue qu'entre 5 000 et 10 000 homosexuels ont été envoyés dans les camps de concentration nazis. Il est difficile d'établir combien parmi ceux-ci y périrent. Comme je le disais, mesdames et messieurs, en 2016, on est loin de cette réalité qui a été exprimée par Wikipédia. Mais qu'en est-il vraiment de la répression à l'égard des communautés gays dans le monde aujourd'hui? Dans un article publié sur la plateforme Slate.fr et intitulé « Tour du monde de la question homosexuelle en 22 pays gay-friendly et 80 pays homophobes », on nous dresse un tableau éclairant sur la condition de la communauté gay dans des pays qui sont rébarbatifs à cette pratique sexuelle. Voici ce qu'on nous rapporte. Comme en Amérique du Nord, on est en train de passer en Europe de la pénalisation de l'homosexualité à la pénalisation de l'homophobie. Ça, c'est un élément crucial, mesdames et messieurs. Savez-vous qu'au Québec, il est interdit par le ministère de la Justice de déclarer publiquement que la pratique de l'homosexualité est un mal moral ou d'affirmer qu'une personne ne naît pas homosexuelle? Voici ce que nous dit le ministère de la Justice du Québec. Depuis 2008, le ministère de la Justice est désigné par le gouvernement du Québec comme étant responsable de la lutte contre l'homophobie. Le gouvernement, en concertation avec de nombreux partenaires, vise à mener la société québécoise vers une pleine et entière reconnaissance des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et transsexuelles. Car si le Québec est doté de mesures législatives reconnaissant l'égalité en droit des personnes des minorités sexuelles, leur acceptation sociale n'est pas encore entièrement acquise. Par ailleurs, dans sa politique québécoise de lutte contre l'homophobie, le ministère de la Justice du Québec nous dit ceci. Certaines croyances concernant les personnes de minorité sexuelle demeurent répandues au Québec. Par exemple, il arrive encore d'entendre dire que l'homosexualité est une maladie, qu'il s'agit d'un mal moral, d'un comportement déviant ou encore qu'on choisit son orientation sexuelle. Ces croyances, souvent héritées du passé, marginalisent les groupes de minorité sexuelle et entravent la pleine reconnaissance de leur égalité sociale. Au sein des institutions gouvernementales, dans l'ensemble des services publics ou dans la population générale, les préjugés homophobes continuent d'affecter la qualité de vie des personnes qui en sont victimes, de façon directe ou indirecte. Les préjugés se manifestent non seulement dans les attitudes et les comportements homophobes, mais aussi de façon plus subtile par des schèmes et des mentalités hétérosexistes, sources de discrimination institutionnelle ou systématique. Ceci veut dire que le gouvernement a fait un choix idéologique, mesdames et messieurs, et condamne ceux qui croient que l'homosexualité est une maladie, qu'il s'agit d'un mal moral, qu'il s'agit d'un comportement déviant ou un choix d'orientation sexuelle. Ces informations illustrent fort bien les propos de Frédéric Martel lorsqu'il dit « Comme en Amérique du Nord, on est en train de passer en Europe de la pénalisation de l'homosexualité » à la pénalisation de l'homophobie. Maintenant, ce qui est malheureux, mesdames et messieurs, c'est que si on exprime un malaise, publiquement, ou entre amis, ou autour d'une table, dans un salon, dans une cuisine, si on exprime un malaise à l'égard de la pratique homosexuelle, eh bien, on va être étiqueté d'homophobe. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit à notre opinion parce qu'on a statué par le gouvernement, par l'opinion publique, par des pressions médiatiques, que s'opposer ou exprimer un malaise à l'égard d'une pratique sexuelle telle que l'homosexualité, eh bien, c'est de l'homophobie. Mais la situation ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. Je poursuis avec l'article de Frédéric Martel. Alors que la situation s'améliore souvent en Amérique ou en Europe, elle se détériore ailleurs. En 2015, 8 pays continuent à maintenir dans leur législation la peine de mort pour les homosexuels. Il s'agit des pays suivants, tous musulmans. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, la Mauritanie, le Soudan du Nord, le Yémen, ainsi que certaines régions du Nigeria et de la Somalie. Entre 70 et 80 pays condamnent encore les relations homosexuelles. Dans certains pays démocratiques comme l'Inde et la Turquie, la situation des homosexuels reste difficile. En Inde, l'homosexualité a été dépénalisée en 2009 par la Haute Cour de New Delhi avant d'être repénalisée fin 2013 par une décision technique de la Cour suprême. En Turquie, la situation s'est détériorée, moins du fait des lois que des pratiques. Les violences à l'encontre des homosexuels sont en hausse. En revanche, la victoire récente du camp laïque aux élections législatives en Turquie confirme l'existence de forces favorables aux droits des femmes et des personnes LGBT. En Russie, où une intense vie gay se développe dans les capitales, le régime autoritaire de Poutine s'associe à l'Église orthodoxe pour limiter toute émancipation des gays et condamner la propagande homosexuelle. Ailleurs, la situation se détériore plus encore, notamment en Afrique subsaharienne. Comme partout, c'est la religion qui est l'un des moteurs de l'homophobie, le catholicisme, l'islam, l'Église orthodoxe ou le protestantisme. Ce n'est pas pour rien, mesdames et messieurs, que le PQ et la CAQ veulent empêcher les groupes religieux d'exprimer leur malaise face à l'homosexualité. Ces deux partis politiques savent que le lobby gay est un réseau mobilisé qui peut les aider à prendre le pouvoir. Si un parti politique enlève le droit de parole aux groupes religieux qui résistent à la pratique homosexuelle, le lobby LGBT a donc le vent dans les voiles pour colorer la culture québécoise à l'effigie de son drapeau arc-en-ciel. Mais poursuivons avec le contexte africain. Du coup, en Afrique, près d'une quarantaine de pays sont dotés de lois interdisant les rapports homosexuels entre adultes consentants. Dans une vingtaine d'entre eux, au moins, des atteintes graves aux droits des personnes homosexuelles sont régulièrement constatées. On assiste même, depuis quelques années, à des phénomènes de repénalisation ou de surpénalisation de l'homosexualité, par exemple en Ouganda. Dans ce pays, l'instauration de la peine de mort pour les homosexuels est régulièrement débattue. En cause, l'influence grandissante des évangélistes, parfois financée et aidée par des organisations religieuses extrémistes des États-Unis. En fin de compte, l'Ouganda apparaît comme le terrain d'une étrange guerre culturelle américaine menée à des milliers de kilomètres des États-Unis par des groupes pro et anti-gays. Les évangélistes, face aux associations gays qui tous soutiennent et financent leurs alliés locaux. Les Américains exportent donc leur vision et leur guerre culturelle aux dépens de l'Afrique. Là, je dois m'arrêter, mesdames et messieurs, et faire une mise au point. Oui, les missionnaires évangéliques s'opposent à la pratique de l'homosexualité en général. Mais c'est le gouvernement qui fait les lois. En Afrique, les besoins sont tellement grands que les missionnaires sont beaucoup plus préoccupés par les réalités conjoncturelles des membres de leur Église que par la situation politique. Sur le terrain, les pasteurs passent plus de temps à éduquer, accompagner et aider les Africains qu'à se battre pour le développement des enjeux politiques. Les gens qui soutiennent les missions américaines en Afrique soutiennent l'œuvre de l'Évangile et non la lutte contre le mariage gay. Ça, c'est une mise au point qui devait se faire, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse avoir sur les ondes le 92,7 FM. Je poursuis. Dans beaucoup de pays africains, on retrouve souvent les mêmes articles de loi contre les homosexuels. C'est le cas aussi pour le Singapour, pour l'Inde, pour le Pakistan. C'est le fameux article 377 du Code pénal, rédigé presque partout avec les mêmes mots. La raison, c'est l'Angleterre victorienne qui a généralisé cette homophobie à partir du Code pénal indien. Reste l'Asie, où cette homophobie chaude n'existe guère comme en Afrique, bien qu'elle puisse passer par le même article 377. Pour beaucoup d'Asiatiques, l'homosexualité doit toutefois rester limitée à la vie privée et le militantisme est mal vu. En Chine, en Corée du Sud ou au Taïwan, la plupart des gays que j'ai rencontrés, nous dit l'auteur, approuvent le modèle familial traditionnel et semblent privilégier une sorte de « don't ask, don't tell » ou pour vivre heureux, vivons cachés. Ils draguent sur Internet. Des centaines d'applications dédiées existent, utilisées par des millions d'homosexuels asiatiques. Ils sortent dans certains bars, mais ils cantonnent le plus souvent leur homosexualité à la sphère privée, sans militer ni réclamer de droits. Autant de comportements tacites d'inspiration confucéenne qui rendent la visibilité de l'homosexualité particulièrement tabou en Asie. La pensée de Confucius, si influente sur ce continent, se définit par l'harmonie. Or, l'homosexualité apparaît comme dissonance et inharmonie. Ce chantage à l'harmonie est un ressort puissant de l'homophobie froide, tacite et toujours un peu latente en Asie. À travers le monde, on observe donc une évolution diamétralement opposée en matière d'acceptation de l'homosexualité. D'un côté, certains pays s'orientent vers une égalité complète des droits des personnes et des clubs LGBT. De l'autre, l'homosexualité s'intensifie et les lois se durcissent. L'auteur dans cet article émet néanmoins une appréhension en laissant supposer que l'augmentation des mariages gays amènerait la fermeture de bars gays, ce qui réduirait la force militante du mouvement. Mais on peut apprendre sans surprise dans ce papier que plusieurs organisations lucratives financent le lobby LGBT. Ainsi, les droits des hommes et des femmes qui pratiquent l'homosexualité vont devenir force de loi et apporter une coloration transculturelle à travers le monde entier. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs, ce qui me préoccupe, c'est ce qu'on peut lire dans cet article de Sophie Allard, publié sur la plateforme de la presse et qui est intitulé « Anormal, la sexualité des Québécois ». Dans cet article, Christian Joyal, chercheur à l'Institut Philippe Pinel et co-auteur d'une recherche sur les comportements sexuels des Québécois, déplore que le voyeurisme, le fétichisme, l'exhibitionnisme, le sadomasochisme et le frotteurisme sont considérés comme des pratiques anormales par le DSM-5, la référence psychiatrique mondiale en ce qui concerne les diagnostics de troubles mentaux. Voici ce qu'on peut apprendre dans cet article. Puisque plusieurs attirances et pratiques sexuelles licites ne sont ni rares ni habituelles, Christian Joyal est d'avis que le DSM-5 fait fausse route en les jugeant anormales. on tente très malhabilement de définir la normalité des comportements sexuels. Si vous n'entrez pas dans leur petite case et que de temps en temps vous avez une attirance ou un comportement atypique, vous êtes anormaux. Sur quelle base établissent-ils la norme sexuelle? Ça relève d'un jugement de valeur plutôt que de données probantes. Certains intérêts paraphiliques sont plus communs que l'on croit, dit le chercheur. La perception de la sexualité est malléable et dépend des facteurs socioculturels, dit le chercheur. Avez-vous remarqué un pattern, mesdames et messieurs? D'un côté, Frédéric Martel déplore que la culture africaine soit teintée par les évangéliques, et d'un autre côté, Christian Joyal reproche aux psychanalystes de ne pas être à la page de la culture swinger. D'un côté ou de l'autre, on fait la promotion d'une culture swinger. Certains d'entre vous vont se demander c'est quoi ça, la culture swinger? Eh bien, la culture swinger, c'est tout ce que le DSM-5 classait comme anormal avant 1990. On peut résumer ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que d'un côté ou de l'autre, il y a une offensive contre les valeurs des citoyens de bonne foi et des gens de foi. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'inquiète, c'est ceci. Si depuis 1990, la pratique de l'homosexualité ne fait plus partie des pathologies décrites dans le DSM-5, parce que les mentalités ont changé, cela laisse entendre que le voyeurisme sexuel, le fétichisme, l'exhibitionnisme, le sadomasochisme et le frotteurisme ne feront plus partie des comportements pathologiques, mais ils seront considérés comme étant normaux dans quelque temps. En décloisonnant un type de sexualité, on a ouvert la porte à plusieurs autres pratiques qui vont colorer nos mœurs. Il s'avère important de demeurer vigilant, informé et de nous prononcer publiquement sur ce qui nous préoccupe si on veut que la famille demeure, comme ce fut le cas en Irlande jusqu'en 2015, comme étant la première et la plus importante des unités de la société fondée sur l'institution du mariage. Si certains pays font preuve de censure à l'égard de la pratique homosexuelle, les croyants de foi théiste et les citoyens de bonne foi sont souvent victimes d'une campagne encore plus rude de la part de leurs détracteurs. Il s'avère donc important que les médias rapportent les faits et que la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de religion soient protégées au Québec. Mesdames et messieurs, que Dieu protège au Québec nos foyers et nos droits. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, je vous invite à ouvrir la discussion en m'écrivant à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net. leblogueur@ericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 ou à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!